grand angle.
C'est le grand angle de ce jour, il porte le nom d'une génération, en colère au Maroc, la Gen Z. Des jeunes gens âgés d'une vingtaine d'années font part de leur colère. Le collectif Gen Z 212 demande la démission du gouvernement après une série de soirées de manifestations. Trois personnes ont été tuées dans la semaine parmi leurs revendications de meilleurs services de santé et d'éducation. Des manifestations sociales inédites pour leur spontanéité, elles font suite à des protestations qui ont démarré à la mi-septembre dans plusieurs villes après la mort à l'hôpital public d'Agadir de 8 femmes enceintes admises pour césarienne. Notre invité, Abdellah Tourabi, journaliste, chroniqueur, fin connaisseur de la société marocaine. Bonjour Abdellah Tourabi.
Bonjour.
Et ce qui est frappant avec ce mouvement Gen Z 212, 212 comme l'indicatif du Maroc, eh bien ce sont ces manifestations sociales inédites pour leur spontanéité, sans leader, et c'est aussi cette volonté affichée de dialogue.
C'est un mouvement qui vient des réseaux sociaux, qui vient de certaines plateformes numériques, parfois des plateformes qui sont réservées à des gamers, comme Discord par exemple, qui est utilisé actuellement par cette génération Z212. Les revendications sont des revendications qui sont extrêmement classiques et traditionnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel ou quelque chose d'iconoclaste dans les revendications. Ça reste des revendications qui, même de la part du gouvernement, même de la part des autorités marocaines, qui sont considérées comme des revendications légitimes, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont relatives à la santé, à l'école, à l'emploi, à des égalités sociales, etc. Et vient s'ajouter, depuis quelques jours, depuis notamment hier, d'autres revendications qui sont de nature politique, et dont la demande de la démission du gouvernement ou et l'intervention du roi.
Et d'ailleurs, certains ministres même font leur mea culpa, comme le ministre de la Santé, qui dit que des réformes ont été engagées dans le domaine de la santé, mais que ces réalisations restent insuffisantes.
Ces revendications ou ce mouvement est sur un fond d'un malaise et d'une tension sociale qui est palpable au Maroc. Depuis un moment, depuis quelques mois, qui est lié à la cherté de la vie, qui est lié, bien sûr, tout à l'heure ça a été cité à l'introduction de l'émission, les manifestations qui ont eu lieu à Agadir il y a 2 semaines, parce qu'il y avait des femmes qui sont mortes dans un hôpital à Agadir, dans un hôpital public, il faut le souligner, un hôpital public. Et donc, après, il y avait des enquêtes, et après, il y avait des visites sur le terrain du ministre de la Santé, et on a découvert la gravité de la situation, c'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, des scanners qui ne fonctionnaient pas, des médicaments qui n'existaient pas, des médecins qui ne faisaient pas leur travail. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles. Au niveau des diagnostics, le Maroc, même sur le plan officiel, le Maroc est très bon. Sur le diagnostic. C'est-à-dire, on fait de très bons constats, mais après, au niveau de la mise en place de certaines réformes, c'est là où le bât blesse, c'est là où il y a un vrai problème, parce que ça prend du temps, les moyens budgétaires se perdent, mais aussi des questions des nouvelles priorités qui apparaissent. Et donc, ce qui crée ce malaise participe à la création d'une tension sociale. Et ce qui se passe actuellement n'est que l'aboutissement de cette tension.
Et est-ce que cela est lié à une forme de contraste entre la vitrine que présente le Maroc à l'international et, si je puis dire, l'arrière-boutique avec ces jeunes qui vivent de grandes difficultés, ce contraste que cette jeunesse ne supporte plus?
Je tiens à dire quelque chose, c'est que dans son dernier discours du roi, le discours du trône, il y a quelques mois, le roi lui-même a relevé ces contradictions. Le roi lui-même a dit que c'est un pays qui fonctionne à 2 vitesses. C'est la métaphore, c'est le train, ce qu'on appelle le train marocain, le TGV marocain, c'est-à-dire il y a un train qui est réutilisant, neuf, etc. C'est l'équivalent du TGV en France. Et d'autres régions du Maroc où le transport public n'existe quasiment pas, où les gens n'ont pas accès aux besoins qui sont les besoins les plus élémentaires, les besoins de santé, les besoins d'éducation, etc. Et donc il y a effectivement une aggravation des inégalités au Maroc. En fait, cette vitrine à l'international, aussi, elle est le reflet de ces inégalités. C'est pas quelque chose qui évolue, c'est pas quelque chose qui est prémédité. Ce sont des inégalités qui commencent à s'agrandir entre d'abord les différentes couches sociales, mais aussi entre les régions. Si vous prenez par exemple des régions comme la région de Casablanca ou la région de Rabat, au niveau des structures, au niveau des infrastructures par exemple, ça n'a rien à envier à un pays européen moyen. Mais par contre, d'autres régions qui sont plus reculées, qui sont enfin, ce qu'on appelle le Maroc profond, par exemple l'Oriental, etc., là, c'est complètement différent. C'est-à-dire cette ligne de la pauvreté, elle est visible sur le plan territorial. Ces inégalités sont visibles. Donc, effectivement, ces jeunes-là mettent en contradiction, enfin, ils soulèvent contre les contradictions. Ils disent, voilà, enfin, c'est un pays où il y a un TGV qui fonctionne, mais en même temps, on n'arrive pas à que des femmes dans le monde rural puissent accéder à des soins et des contradictions. Et ça pose au Maroc la question des priorités, ça pose la question de l'utilisation des budgets qui sont alloués, des ressources budgétaires qui sont allouées aux services sociaux, à la santé, à l'éducation et à une meilleure gouvernance.
Les politiques hein, qui d'ailleurs ne sont pas les bienvenus dans les cortèges, les politiques de gauche également, on a pu le voir hein, avec la députée PSU, Namila Mounib.
Exactement. Alors c'est quelque chose sur lequel ce mouvement insiste. C'est-à-dire c'est un mouvement qui est apolitique. Il n'a pas d'affiliation politique, il n'a pas d'affiliation syndicale. Il y a une sorte de rejet total des institutions politiques, à l'exception de la monarchie, du roi. C'est-à-dire que voilà, enfin, la dernière revendication, elle s'adresse directement au roi pour lui demander d'intervenir. C'est-à-dire la monarchie n'est pas mise en équation. Mais par contre, il y a un rejet total, mais vraiment, du gouvernement, du parlement, des partis politiques, des institutions politiques. Et ce sont, à mon avis, c'est une posture qui est tout à fait légitime. Parce que depuis quelques années, enfin, surtout avec ce gouvernement, le gouvernement Azarmouche, il y a des critiques très sévères envers la vision politique de ce gouvernement. Vous savez que 14% actuellement des députés marocains sont poursuivis pour des affaires de corruption, pour des affaires de malversation, etc. Ce qui jette de l'opprobre sur la pratique politique et la pratique parlementaire au Maroc. Et il y a aussi ces soupçons de conflits d'intérêts qui tournent autour du chef de gouvernement aussi sur certaines questions. Et il y a énormément de choses qui ont discrédité la vie politique marocaine, qui ont qui ont nourri les critiques de la population marocaine envers ce gouvernement. Et donc, encore une fois, ce mouvement de contestation est l'aboutissement de toute cette tension sociale, mais également de cette situation politique.
Et c'est intéressant hein, ce que vous dites, hein, lorsque vous soulignez que la monarchie n'est pas mise dans l'équation. Il y a aussi une forme de patriotisme dans ce mouvement, si je puis dire.
Ben évidemment. Ces jeunes, d'abord, le patriotisme. Parce que voilà, encore une fois, les auditeurs en France doivent comprendre deux choses. Il y a deux choses différentes. Bien sûr, il y avait des images de violence qui ont émaillé ces mouvements. Enfin, la nuit d'hier, elle était une nuit extrêmement calme, mais celle qui l'a précédée était une nuit très mouvementée. Il y avait 3 morts dans la région du Sousse, enfin à Agadir. Donc, pour les jeunes qui manifestent, on va dire, les jeunes dans les grandes villes, je vais dire précisément entre 17h et 20h, 21h. Donc, ils mettent en lumière, dans leur slogan, ce ne sont pas des slogans très compliqué au niveau de la formulation. Ils mettent aussi leur attachement à leur pays, leur amour à leur pays et des revendications, encore une fois, légitimes. Mais par contre, la nuit, à partir de 22h, 23h, dans certaines petites villes, dans certaines ceintures de la misère périurbaine qui entourent quelques villes comme Agadir, comme Moujda, etc., là, une nouvelle catégorie, c'est notamment des mineurs, des jeunes, qui s'adonnent à des actes de vandalisme, de violence, etc., et qui sont rejetés par le mouvement Gen Z 212. C'est-à-dire qu'on a toujours des communiqués de ce mouvement qui rejettent et qui dénoncent ces actes de violence de la part de ces casseurs, de ces mineurs et jeunes qui sont dans ces régions dont j'ai parlé, mais aussi l'approche sécuritaire, parce qu'il y avait une approche au début qui n'était pas la bonne approche. C'est-à-dire, au lieu d'une approche politique qui essaye de parler aux jeunes, de communiquer avec eux, et de proposer des solutions, les 2 premiers jours, malheureusement, il y a une erreur qui a été faite, et on a privilégié une approche qui est sécuritaire. Et je pense que c'était une erreur.
Et sachant que mercredi soir dernier, les manifestations étaient autorisées depuis ce mercredi soir, et on l'entend à travers votre propos, ce mouvement risque d'être dépassé par son ampleur avec des personnes qui ne porteraient pas les mêmes revendications et qui refuseraient cette forme de pacifisme.
Il y a un élément qui ressemble à du happening aussi dans ces manifestations. C'est-à-dire que ça peut s'arrêter aujourd'hui. Je l'ai dit au début de ces manifestations, ça peut s'arrêter aujourd'hui. comme ça peut prendre encore des semaines et des mois. Alors pour la violence, pour les actes de vandalisme et de violence, elles sont complètement rejetées par tout le monde, par toute la population publique, enfin la population marocaine, l'opinion publique, y compris ce mouvement de Gen Z de 112. Il y a un rejet total.
Abdellah Tourabi, avez-vous des échos sur la manière dont le roi Mohamed VI perçoit ce mouvement?
Oui, non, bien sûr, enfin, il n'y a aucun écho ni information sur ça. Et le roi, enfin, toujours, il intervient en dernière instance. C'est-à-dire que quand toutes les solutions sont épuisées, quand la solution politique, c'est-à-dire enfin, il y a des institutions, il y a une constitution, et il est important de voir comment les jeunes manifestants insistent sur la constitution. Un élément très important, quand vous lisez leurs revendications, il y a toujours des liens qui sont faits à la constitution des pays. Donc il y a des institutions, il y a un gouvernement qui doit jouer son rôle, il y a un parlement qui doit jouer son rôle, il y a des partis politiques qui doivent jouer leur rôle, des syndicats, etc. Tous les corps intermédiaires qui sont affaiblis enfin, au Maroc depuis des années doivent jouer leur rôle. Le roi, il intervient en dernière instance. C'est-à-dire, enfin voilà, enfin, sinon, ça va vider la constitution marocaine de tout son sens. C'est le roi, il est arbitre. Mais jusqu'à maintenant, enfin, toutes les solutions, toutes les options n'ont pas été épuisées pour que le roi intervienne.
Un grand merci, Abdellah Tourabi, pour cet éclairage hein, sur ce mouvement Gen Z de 112. Rien que le fait qu'il porte ce chiffre de 112, c'est aussi un élément important, ce mouvement qui aime son pays et qui veut des améliorations. On l'a compris ainsi grâce à vous, Abdellah Tourabi. Vous êtes journaliste, chroniqueur, fin connaisseur de la vie politique et de la société marocaine. Merci à vous, chers auditeurs, et excellente suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle.